Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog, podcast toujours confiné, podcast avec couvre-feu. Non, il n'y aura pas de couvre-feu, on va essayer de rester dans les configurations habituelles et parler beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux vidéo encore une fois cette semaine. Avec moi pour parler, eh bien, il y a évidemment Thomas.
Alors, je m'excuse d'avance parce qu'il paraît que mon son est tout pourri aujourd'hui. Donc voilà, je vous prie de m'excuser pour la teneur de
Alors,
mes propos.
on annonce Thomas. En fait, on lui a collé, vu qu'il parle beaucoup, on lui a collé un filtre exprès pour que les premiers mots en fait ne passent pas. Donc, ne vous étonnez pas, durant ce podcast, Thomas a un problème technique totalement indépendant de notre volonté qui fait que les toutes premières secondes de ses prises de parole sont soit étouffées, soit coupées. Donc, excusez-nous par avance, c'est pas voulu, mais c'est son téléphone de merde. Voilà. Avec nous aussi évidemment Romain.
Bonsoir.
Toujours depuis le Japon, où
Bah
il
oui,
est.
parce qu'avec les nouvelles mesures du gouvernement japonais, en fait, si je quitte le territoire, je ne peux plus y retourner. Donc,
Voilà.
je
Et
reste
dire
là.
qu'on l'a juste envoyé pour l'ouverture du Super
Super
Nintendo
Nintendo.
World. Et ben, on attend toujours, et malheureusement, ce ne sera pas pour le 4 février prochain.
Je
Mais
ferai
on
une
n'est
chiot
pas.
dans la foulée aussi.
Oui, c'est vrai. Oui, ben, tu veux le représenter, je sais pas, tu feras quoi, la perche ou qu'est-ce que. Ah ben non, le tennis!
Non, mais un peu tout multisport, moi. J'essaierai de. Bah, on ne sait pas quels athlètes réussiront à aller jusque là-bas et on ne sait pas quel pays je vais représenter. Hein. Je suis un free agent. J'accepte toutes les propositions.
Ok, bon, on va pas évidemment continuer dans ce sillon. On va entamer immédiatement le gros du sujet de ce podcast. Il y aura plusieurs thèmes, comme on essaye d'en faire à chaque fois. La première partie sera consacrée à Lucasfilm Games, puisque vous le savez maintenant, Lucasfilm Games est de retour. Et il va y avoir des jeux qui ont déjà été annoncés la semaine dernière. On vous en parle évidemment tout à l'heure. Et puis, on va revenir sur le feuilleton Cyberpunk 2077, puisque ça continue. On n'avait pas fini d'enregistrer notre podcast la semaine dernière que Marcin Iwiński présentait ses excuses et que d'autres rebondissements ont eu encore lieu, avec notamment Jason Schreier qui a pondu un nouvel article ce week-end. Bref, ça ne s'arrête pas et ça commence à devenir un peu épuisant ou pas. On en discute tout à l'heure, évidemment. Et on finira avec, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler la nouvelle rubrique Gameblog sans flamme, puisqu'il y a un petit trailer qui est paru la semaine dernière, qui nous a beaucoup plu, et on va essayer de savoir pourquoi ça nous plaît, et pourquoi ça plaît à l'Internet. Ça concerne Super Mario 3D World, et surtout Bowser's Fury, déjà j'ai deux personnes là sous les yeux qui l'attendent beaucoup, et qui sont très très intriguées. Donc je pense que c'est eux qui vous en parleront le plus. Moi j'aime moins les chats que les chiens. Donc voilà, c'est tout. Je crois que Romain aussi, mais
Ah
bon.
bah moi je suis team chien à 3000%.
Pardon
C'est pour ça
Thomas?
que ça marche, c'est parce qu'il y a des chats dedans, il y a des chats partout, tout a des oreilles de chat. Cherchez pas plus loin, c'est ce qui va faire le succès de ce jeu.
Ok,
Bande d'ignares.
on en
Ça et le fait
parlera.
qu'ils ne sortent pas sur Wii U.
Oui aussi. On en parle tout à l'heure, évidemment, mais avant ça, le win et le fail. Alors, le win de la semaine, c'est plutôt le win de l'année 2020. On n'a pas trop envie de reparler de 2020 tous ensemble. Malheureusement, quand c'est des bilans, bah, on le fait. Et mon cher Romain, le bilan est plutôt favorable pour Steam en 2020.
On a beaucoup parlé de ce qui s'était passé du côté des consoles et des différentes statistiques d'utilisation qui ont explosé en 2020 à cause de la pandémie, des mesures de distanciation sociale, etc., de confinement, etc., etc. Et bien sur PC, c'est pareil, en fait. On n'a pas fait de podcast PC bilan, mais le PC a connu exactement le même essor. Et là, en particulier, on a les chiffres de Steam, qui est, on va dire, la plateforme de jeu la plus répandue, la plus utilisée aussi au monde. Et donc, les chiffres ont totalement explosé en 2020. Le temps total de jeu sur l'année a augmenté de 50,7%. Donc, c'est massif. Déjà, il y avait 20 milliards d'heures de jeu passées sur Steam en 2019. Et là, on est passé à 31,3 milliards d'heures. C'est
Ah bah
complètement.
c'est des chiffres qui doivent faire rêver sur le PlayStation Store et le Xbox Live, ce genre de choses.
Ah
Forcément,
bah oui.
une Nintendo, n'en parlons pas.
Et après, il y a le nombre de joueurs actifs par jour qui est aussi massif, avec des records à tous les niveaux. Le nombre de joueurs actifs par jour, donc c'était 62,6 millions en 2020, 120 millions par mois, toujours en 2020. Et enfin, joueurs simultanés, record aussi, 24,8 millions. Vous vous rendez compte, à un instant T, il y a eu quasiment 25 millions de joueurs connectés à Steam en même temps, ce qui est assez massif. Alors évidemment, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et donc il faut que tout ça rapporte. Et là aussi, il y a eu de beaux résultats en 2020, avec 2,6 millions de premiers achats effectués en un mois pour la première fois de l'histoire de Steam. C'est 21,4% d'augmentation par rapport à 2019. Alors je précise un peu, parce que c'est vrai que la formulation, ça peut sembler un peu bizarre. Donc ça veut dire que sur un mois, il y a 2,6 millions de personnes qui ont acheté un jeu sur Steam pour la toute première fois. Donc ça fait, ça symbolise, on va dire, un afflux conséquent de nouveaux utilisateurs de Steam et surtout de nouveaux acheteurs de produits via la boutique de Steam. Donc c'est assez dingo. Les soldes, évidemment, ont cartonné l'année dernière. Alors le nombre de jeux dont les revenus bruts ont dépassé les 100 000 $ a augmenté de 36%. Donc ce qui veut dire que même les jeux de moindre envergure, des plus petites productions, etc., ont réussi en moyenne à gagner plus d'argent que par le passé en 2020 sur Steam. Parce qu'on sait qu'avec les systèmes d'algorithmes et la masse de contenu qu'il y a en permanence sur Steam, les plus petites productions ont parfois du mal à rester en avant et à se faire voir et à se faire connaître. Là, on va dire que ça a été un peu moins le cas en 2020. Tout le monde s'en est sorti un petit peu mieux. Donc, sachant que certains studios indépendants ont un peu galéré à cause de la Covid en 2020, on va dire que c'est peut-être une maigre consolation. Mais là encore, c'est un chiffre moyen. Donc,
on ne sait pas qui en particulier a été vraiment bénéficiaire. Et c'est vrai que quand on parle des petits, ça ne veut pas dire que tous les petits ont été logés à la même enseigne et ont eu cette chance de voir leur revenu augmenter parce que mieux mis en avant et donc plus intéressant pour tout le monde.
Du côté de Valve, on se frotte les mains. Voilà.
Forcément. Et tout ça en restant, pour revenir sur les développeurs, en restant avec des revenus dont sont retirés 30% qui vont directement à Valve, ce qui n'est pas le cas chez Epic ou autre. Oui, Thomas.
Il y a une statistique pour moi qui manque, j'aurais été curieux de la connaître, c'est combien de joueurs ont profité justement de l'année 2020 pour se remettre à jour de leur backlog. Parce qu'on le sait, nos lecteurs sont très 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 nombreux à avoir accumulé une quantité assez phénoménale de jeux sur Steam. Et je pense que certains ont profité pour peut-être délaisser des nouveautés, mais se remettre à jour par rapport à tous les titres qu'ils avaient achetés en solde. Ce sera intéressant de le savoir.
Ah oui, pas bête, effectivement. Mais ça, c'est le genre de statistique qui est assez compliqué à obtenir, je pense, sauf si tu fais un sondage. Et là, il faut que tu reparles une deuxième fois, comme d'habitude, pour que ça s'enclenche, évidemment, mon cher Thomas. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Si vous avez la vidéo, vous voyez qu'il fait un petit geste comme quoi il ne peut pas parler. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la technique. Merci pour ce win très impressionnant de la part de Valve donc et de Steam. Le fail, lui, ça concerne les consoles. Vous voyez, on est encore dans un univers PC versus console, mais ça concerne plutôt la partie écologique des consoles.
À nouveau, ce sont peut-être des records qui ont été établis, mais des records dont on se serait sans doute bien passé pour le coup, puisque on vous en a parlé en long, en large, en travers. Ça tombe bien, j'ai les deux principaux intéressés sous les yeux. Romain et Plume vous ont fait, au moment de leur sortie respective, des tests hyper complets des Xbox Series X et des PlayStation 5 quand elles sont arrivées chez nous. Et parmi les nombreux aspects qui ont été évoqués, il y en a un qui n'était pas mesurable de notre côté, c'était la consommation énergétique des consoles. Et c'est pas grave, puisqu'il y a une agence non gouvernementale américaine qui s'en est chargée et qui vient de rendre justement, de publier ses résultats. C'est le Conseil de défense des ressources naturelles, le NRDC en anglais abrégé. Et le bilan n'est pas très très bon, comme dirait l'autre. Les deux consoles de nouvelle génération se sont fait largement épingler pour leur consommation d'énergie, justement. Parmi les longs points, je vous invite à aller lire l'article original si vous touchez un peu en anglais. C'est très intéressant parce qu'il y a vraiment énormément d'aspects qui ont été mesurés, comparés par l'organisation. Mais on en a retenu quelques-uns dont on vous a parlé sur Gameblog, à commencer par les applis de streaming qui étaient parmi les premières incriminées. Vous savez que depuis belle lurette, vous pouvez profiter de Disney+, OCS, Netflix, à peu près tout ce que vous voulez depuis directement votre console, eh bien, ces applis dédiées, en fait, consomment une énergie phénoménale puisque l'organisation gouvernementale a estimé qu'elles utilisaient 10 à 25 fois plus d'énergie qu'un appareil qui serait véritablement dédié au streaming, donc une télé connectée ou ce genre de choses. Donc, une addition quand même assez salée si vous regardez des vidéos depuis votre PS5 ou votre Xbox Series X. Et parmi les autres problèmes là, qui sont exclusifs à la console de Microsoft, il y a le démarrage rapide, le Quick Resume, dont Romain, tu nous avais beaucoup parlé, puisque ça permet de tout de suite replonger dans un jeu ou même de basculer d'un jeu à un autre. Eh bien, si la feature est très pratique et nous fait gagner du temps, on va dire environ 5 à 10 secondes avant de pouvoir se replonger dans un jeu, eh bien, malheureusement...
Même plus que ça, hein. Plus que ça, parce que tu as aussi le redémarrage, en fait. Par exemple, si tu laisses une partie la veille, que tu rallumes ta console le lendemain, tu peux retourner directement là où tu en étais dans le jeu. Donc là, tu n'as pas le boot, t'as pas le boot du jeu, tu n'as pas les menus, etc. Donc c'est quand même encore plus que 5 secondes, quoi.
Ouais, voilà. Bon, on va dire que ça se chiffre quand même en secondes, en dizaines de secondes, en tout cas, le temps qu'on gagne grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Et bah, si ça s'avère très pratique sur le plan énergétique, ce n'est pas du tout la même soupe, puisque dans le rapport qui a été fait, la NRDC estime que eh bien, cette fonctionnalité utilisée ad nauseam pourrait consommer 500 mégawatts d'ici à 2025, ce qui équivaut à peu près à la production d'une grosse centrale à charbon pendant une année. Donc ça pourrait coûter très très cher aux joueurs américains. Mais pour ne pas, pour rester, on va dire, et conclure sur une note plus positive, il y a une console qui est louée, pour le coup, par cette organisation. C'est Xbox Series S, qui, elle, est très raisonnable, en fait, et profite justement d'un coût énergétique moindre, et qui, surtout, comme la Series X, consomme moins d'énergie lorsqu'on joue à des jeux rétro. La rétrocompatibilité, en fait, a visiblement été bien pensée par Microsoft de ce côté-là. En revanche, côté nouvelle génération, ce n'est pas encore vraiment gagné. Donc voilà, elle invite notamment les joueurs à activer en tout cas la fonctionnalité d'économie d'énergie sur la Xbox Series X, puisque contrairement en fait aux modèles européens qui sont directement configurés de la sorte, eh bien, aux États-Unis, ça ne va pas de soi. Donc il faut faire une étape supplémentaire et aller activer cette option dans les menus. Donc voilà, allez faire un tour sur la vôtre pour voir si c'est effectivement le cas. Mais on se rend compte que ce déploiement de puissance et cette nouvelle génération n'est peut-être pas aussi verte qu'on nous l'avait promise il y a quelques mois.
Bah, c'est bien triste. Du coup, je vais peut-être aller virer le mode veille de ma PS5, je crois. C'est peut-être mieux, non?
Et notamment ce que fait notre cher ami Dopamine, qui prend toujours le soin justement d'éteindre complètement sa console et de ne pas la laisser en veille. Donc, on lui fait une petite dédicace.
Bon, bah écoute, je vais aller suivre son exemple. Bon, pas tout de suite parce qu'on a encore le podcast à continuer, mais je vais y penser. Alors, maintenant, on va pouvoir passer au thème numéro 1 de la semaine, les amis. Alors, bon, le thème numéro 1 de la semaine, c'est Lucasfilm Games. C'est un nom qu'on ne pensait pas réentendre, un nom qui avait complètement disparu, même si il y a un an ou deux ans, il était revenu un petit peu sur le devant de la scène parce qu'on pensait qu'il avait été réutilisé, réactivé, alors qu'en fait, c'était le nom de l'entité qui surveillait les jeux sous licence Lucasfilm depuis toujours. Le nom a toujours existé, même si Lucasfilm Games est devenu LucasArts dans les années 90. C'est vraiment ce nom-là qui a été repris la semaine dernière. On l'a appris grâce au compte Twitter, puis sur le site officiel de la marque. Au départ, bah, tout simplement pour servir les jeux Star Wars. En tout cas, la première bande-annonce qui dit « Salut, c'est Lucasfilm Games », c'est pour les jeux Star Wars. Et donc, on se dit « Ça y est, c'est parti, tout le monde va finir sous la bannière Lucasfilm Games, comme les jeux Xbox Game Studio, comme les jeux PlayStation Studio. » Mais dès le lendemain, bah, ça s'est accéléré, en fait, messieurs. Si je puis dire, avec des annonces, dont une première annonce qu'on n'attendait pas forcément.
Ah bah c'est c'est pas qu'on s'y attendait pas forcément, c'est qu'on s'y attendait pas du tout. En plus, le truc est tombé comme ça, sans teasing, sans rien, c'est bam, une bande-annonce teaser postée sur Twitter par Bethesda. D'ailleurs, moi, au début, j'ai pas forcément fait attention, parce que c'était Bethesda, justement, et je me suis dit, bon, bah, je vais quand même cliquer par curiosité.
Mais ça ressemble à ce qu'ils ont fait pour à des teasings qu'ils ont fait pour The Elder Scrolls ces dernières semaines en plus.
Ouais, mais ça se fait de plus
c'est
en plus
une,
comme
des
ça.
cartes vues du dessus avec une ambiance un peu vieillotte. Tu te dis bah voilà, ils vont montrer un bout de map pour The Elder Scrolls Online ou The Elder Scrolls 6, tu vois, comme ils ont fait.
Ouais. Et plus le teasing avance, plus tu vois des accessoires qui commencent à te mettre la puce à l'oreille. Genre un fouet, un chapeau, etc. Et à la fin, ça se termine sur un petit copyright Indiana Jones, machin. Donc, il s'avère que Bethesda travaille sur un nouvel Indiana Jones, sous licence évidemment de Lucasfilm Games. Alors, on en est vraiment au tout début de la campagne de communication et du marketing sur le jeu. Donc, on sait pas vrai, enfin, on n'a pas énormément d'informations. Mais le truc un peu tonitruant, très surprenant, c'est qu'un jeu triple A Indiana Jones soit en développement et qui plus est chez Bethesda. C'est vraiment deux choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout.
Alors, la chose qui est notable aussi dans le trailer qui fait défiler d'ailleurs de façon astucieuse des bouquins ou des autres documents avec le nom de Todd Howard qui va être producteur. Donc, dessus, c'est qu'on voit aussi que c'est un studio qui a plutôt bonne presse depuis quelques années, qui va se charger du jeu. C'est un studio suédois, c'est Machine Games, qui s'occupe de Wolfenstein depuis de nombreuses années maintenant. Ce qui nous laisse penser que cet Indiana Jones, déjà, qui laisse aussi quelques petits indices, comme par exemple l'idée que ça pourrait se passer entre l'épisode 1 et l'épisode 3, donc ça y est, j'ai oublié le nom du premier épisode, Indiana Jones et l'Arche perdue, voilà, entre l'Arche perdue et la dernière croisade, parce que ça se passerait visiblement en 37, ça pourrait aller vers Rome aussi, dans les destinations, et puis forcément, si on arrive dans ces moments-là, on se dit qu'on va encore taper du nazi. Et en ce moment, je tiens à le dire, taper du nazi, ça me paraît assez indispensable.
Bah, Machine Games a comment dire de l'expérience à ce sujet. Ouais, c'est dans l'air du temps, on va dire, de proposer une thématique comme ça. Alors après, Bethesda dans un autre tweet avait précisé que ce serait un jeu avec une histoire inédite. Parce que je voyais des gens déjà dans les théories commencer à faire référence à certains romans, Indiana Jones ou des choses comme ça. Mais si on suit ce que Bethesda et Lucasfilm Games ont dit, ça sera totalement inédit. Il me semble aussi qu'ils ont dit que ça serait un jeu d'action-aventure, ou il me semble que ça a été précisé, je ne sais plus exactement où.
Après, action-aventure peut prendre une forme en vue subjective comme en vue objective.
Ça peut
Bon.
vouloir dire beaucoup de choses. Mais
Ouais.
non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui avaient peur, quand l'annonce a été faite, que ça soit un truc genre à la Telltale Games, tu vois, un jeu épisodique, un point and click. J'imagine assez mal Bethesda et Machine Games faire quelque chose de la sorte. Là, je pense qu'on s'attend plus à du blockbuster, quoi, un
C'est
gros
ce que
jeu.
j'avais demandé. Vous vous attendez à quoi? Vous attendez vraiment à ce que, comme c'est Bethesda, comme ça appartient à Xbox, que ce soit une réponse à Uncharted ou que finalement, Machine Games et Bethesda, qui aiment beaucoup la vue subjective, nous emmènent vers quelque chose en vue FPS avec, on est Indiana Jones et finalement, on vit les choses de l'intérieur. Moi, j'avoue que les deux options me plaisent, mais j'aurais peut-être une préférence pour la vue intérieure. Ah oui, franchement, Thomas, même si on t'entend pas et qu'on a juste dû dire ah ouais, et on t'entend plus du tout là, Thomas, ça y est.
Je
Non, mais c'est... Ah.
comprends ton point de vue, mais d'un autre côté, je pense que ça fait quand même assez longtemps qu'on n'a pas eu une aventure véritablement inédite des aventures d'Indiana Jones. Pour le coup, j'imagine que les gens s'attendent peut-être quand même à profiter du personnage. On parlait de l'influence d'Uncharted, Tomb Raider, enfin, qui ont été les références en matière de jeux d'aventure et d'exploration ces dernières années. J'imagine que les gens vont s'attendre à pouvoir incarner le personnage et surtout en profiter. Après, ça amène d'autres problèmes, c'est-à-dire l'image du personnage, peut-être celle
Voilà.
d'Harrison Ford. On sait qu'il y a tout
Exactement.
il y a de véritables des points de détail juridiques derrière qui vont devoir être levés, qui sont sans doute
Bon, à mon
déjà au
avis, c'est
travail.
réglé. Si c'est Lucasfilm qui a le truc, à mon avis, ils ont déjà dû voir depuis un moment, hein. Disney a dû allonger. Si c'est.
Contre, ce qui sera intéressant de voir, c'est si Machine Game se lançait justement dans un jeu d'action-aventure à la troisième personne, ce qui changerait justement un petit peu des derniers FPS dont on a pu profiter, qui restent quand même, enfin, qui sont axés qui laisse la part belle au grand spectacle quelque part, que ce soit les derniers opus de Wolfenstein. On sait qu'il y a des efforts de mise en scène pour que ce soit assez tonitruant. Donc j'imagine que c'est quelque chose qu'on pourrait retrouver dans ce prochain Indiana Jones. Moi, en tout cas, à titre personnel, même si je n'ai pas vu tous les films, vous connaissez mon amour pour le cinéma, je m'attendrais à pouvoir profiter en fait, du design du personnage et surtout à évoluer dans des décors en retrouvant quelque chose, des sensations plutôt proches d'un Uncharted ou d'un Tomb Raider, qui étaient des formules qui marchaient quand même très bien pour proposer de l'action-aventure triple A.
Bah, il faut savoir, excuse-moi, juste, je rappelle, c'est que les derniers jeux Indiana Jones, on va dire d'ampleur, c'est des jeux qui essayent de faire du Tomb Raider et pas du Uncharted, parce que Uncharted n'existait pas encore au moment où la tombe de l'empereur est sortie. Non, pas la tombe de l'empereur, le bâtonnet des rois, ou bâton des rois, je ne sais plus. Bref, c'est. Pourquoi. Enfin, je veux dire, ce que je veux dire, c'est. Peut-être que c'est le moment d'essayer de trouver un autre moyen, peut-être de se rapprocher plus d'un Mirror's Edge. Je parle de Mirror's Edge parce que c'est un des modèles en termes d'actifs, de FPS vraiment actifs et avec du traversal. Je pense aussi surtout à Dying Light. Pourquoi ne pas aller dans cette direction pour offrir un peu plus d'immersion justement aux joueurs avec Indiana Jones? Voilà.
Ce qui va être déterminant, je pense, c'est Harrison Ford. Parce que si tu fais l'effort de payer pour avoir le droit d'utiliser l'image d'Harrison Ford et éventuellement le faire participer au jeu via le doublage, bah, peut-être que ça justifie plus une vue à la troisième personne pour voir le modèle du personnage, justement. Mais c'est vrai là aussi que je suis partagé parce que l'expérience et le savoir-faire de Machine Games se situe plus au niveau de la vue à la première personne. Et un autre truc aussi, parce que les gens ont immédiatement pensé, oui, c'est la réponse de Microsoft à Uncharted. Mais enfin, tout ne doit pas forcément être une réponse à ce qui se fait, ailleurs.
C'est vrai.
Et ça serait dommage que le studio se fasse à Uncharted au rabais, tu vois. S'ils n'ont pas l'expérience ou les idées qui mènent à ce type de jeu, je serais plutôt d'avis à les pousser à faire quelque chose avec lequel ils sont à l'aise, tu vois. Utiliser à bon escient leur savoir-faire, etc. Parce que les derniers Wolfenstein l'ont montré, ils sont capables de faire des choses très bien, hein, ce studio. Donc je suis partagé. Mais là encore, c'est tout ça, c'est vraiment de la spéculation pour l'instant, parce qu'on n'en sait vraiment rien. Le seul petit truc rigolo que je veux noter, c'est que Todd Howard avait fait une Phil Spencer dans les interviews en webcam qu'il a pu faire au cours des derniers mois. Des gens ont remarqué que des choses qui avaient été faites longtemps avant l'annonce de ce Indiana Jones, ben en fait, Todd Howard, sur ses étagères derrière lui pendant les interviews, il avait des répliques d'objets de Indiana Jones affichées clairement. Et ben après, c'est vrai que les gens ne peuvent pas forcément deviner que dès que tu as un truc sur ton étagère, ça veut dire que tu bosses dessus. Mais...
Thomas, par exemple, on peut dire qu'il bosse sur Soul Calibur, Tropico, Sing Party, un Commodore 64...
C'est pas pareil, on est journaliste, c'est pas la même chose.
Bien sûr, bien sûr.
Je peux te dire que maintenant, après que Phil Spencer ait fait ça avec la série S et Todd Howard ait fait ça avec Indiana Jones, maintenant, dès que tu vas avoir un développeur ou un constructeur qui fait une interview en webcam, je peux te dire que le contenu de ces étagères va être passé en revue, au pain file.
D'ailleurs, si c'est déjà ce qu'on fait quand Geoff Keighley, par exemple, prend la parole, on est tous à examiner les étagères qu'il y a derrière lui. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit avant, Romain, parce que je suis tout à fait d'accord. La pire des choses qu'il pourrait faire, ce serait de s'inscrire en réaction à Uncharted et du coup de se laisser dicter quelque part leur agenda ou des mécaniques par une série qui marche bien, alors qu'ils ont une vraie occasion de faire autre chose. En plus, c'est un personnage qui a un univers très riche, très construit, avec énormément de lore, en fait, avec toutes les déclinaisons qu'il y a eu. Et si ça prenait la forme effectivement d'un FPS, ce serait peut-être l'occasion de faire un FPS un peu différent, où le but n'est pas forcément de buter tout le monde, mais plus d'évoluer dans des décors, de profiter d'énigmes aussi à la première personne pour peut-être expérimenter, tenter quelque chose d'un petit peu différent. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.
Bah, tu vois, Capcom a montré que tu pouvais faire un Resident Evil avec les vraies mécaniques de la série, les choses auxquelles on est habitué, en vue à la première personne. Donc, je sais qu'en France, on a encore pas mal de joueurs qui sont repoussés par la notion même de jeu avec vue à la première personne, parce que pendant longtemps, certains ont colporté l'idée qu'un FPS c'était juste pam pam boum boum, alors qu'en fait, avec ce type de vue-là, tu peux faire d'autres choses, et ça a été prouvé à maintes reprises depuis. Mais c'est une idée reçue qui continue de perdurer. Mais
il y a des gens qui sont affectés aussi, hein, qui n'arrivent pas à jouer à un FPS. Hein. La cinétose, bon, nous on n'est pas affectés, hein, mais il y a des gens qui sont quand même malheureusement, dès qu'ils commencent à jouer, je me rappelle à l'époque de GoldenEye, j'avais un pote, il pouvait pas jouer à GoldenEye parce que ça le rendait malade. Et je me disais, mais c'est quoi ces conneries? C'est plus tard que j'ai appris qu'il y avait cette possibilité d'avoir le mal des transports, mais à cause de la vue à la première personne dans les jeux, parce que ça t'empêche de te focaliser. Sur un point précis à l'écran et que ça peut vraiment te foutre la gerbe. Donc ça, voilà, ça peut être une des raisons. Mais après, si on ne fait pas partie des gens, on va dire, touchés par ce genre de problème, moi
En
je pense que
principe,
ça favorise l'immersion avant tout, quoi.
les gens qui critiquent les FPS, c'est rarement à cause de ça que tu les entends critiquer. Parce
Non,
que
bien sûr.
les gens qui disent bah moi je peux pas y jouer parce que ça me donne la nausée, ils se contentent de dire ça, tu vois. Mais les autres personnes ils disent ah, de toute façon moi si c'est FPS j'y joue pas. Bon, c'est un peu dommage de se limiter à ça, quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Je rebondis une dernière fois sur juste un truc concernant Indy. C'est que j'aimerais pas personnellement que Harrison Ford soit impliqué. J'ai un souvenir très précis du bon baiser de Russie d'Electronic Arts qui est sorti il y a. Oula, je ne sais même pas si j'étais pas encore chez Joypad à ce moment-là. Il y a bien 15 ans, un peu moins peut-être. Et je me souviens avoir fait la présentation. À l'époque où il nous disait, ah voilà, Sean Connery a participé, c'est super. Parce que quand on commençait à jouer au jeu et qu'on entendait Sean Connery, on voyait Sean Connery dans la quarantaine à l'écran.
Avec sa
Mais
voix de vieillard.
sauf que Sean Connery, il avait déjà plus de 70 piges à ce moment-là et que bah, enfin, ça correspondait pas très bien. Hein. Sa voix avait vieilli avec lui, ce qui était un peu normal. Ce qui veut pas dire qu'il faisait mal son boulot, hein, c'est juste que bah, il y a un décalage, quoi. Et Harrison Ford, même si il peut se contenter de. Tu vois, il a toujours sa voix. Enfin, il n'a jamais trop changé dans sa façon de s'exprimer. Hein, tu vois, kid, quand il parlait à Mark Hamill, par exemple, qu'il imite très bien au passage. Mais c'est peut-être pas. Enfin, je pense que ça casserait quelque chose si on lui demandait à lui de redoubler un personnage dans la trentaine avec la voix qu'il a aujourd'hui. Et je pense que on peut trouver des sosies vocaux. Je crois qu'on en a. Il y a pas mal de jeux qui l'ont fait ces derniers temps et ça a marché plutôt bien. Tu parlais de Schwarzenegger, je crois, dans Mortal Kombat
Ouais.
11, qui a trouvé quelqu'un qui l'imite. Bon, de toute façon, Schwarzenegger est facile à imiter
Ouais.
de manière générale, mais voilà, ça, je pense que c'est jouable, hein. Et je me rappelle aussi de Scarface, le jeu Scarface. C'était pas Al Pacino, c'était un mec qui l'imitait, mais qui le faisait super bien. Et voilà, donc tout est possible.
Bah, le risque, c'est, enfin, l'idée, la meilleure idée, je pense, ça serait effectivement de prendre son image, mais pas sa voix, et de prendre quelqu'un qui l'imite, parce qu'en plus, avec Harrison Ford, outre l'âge, tu risques de tomber sur un Harrison Ford mal luné qui
Ah
prend
oui.
le projet complètement par-dessus la jambe et qui lit ses lignes sans aucune conviction. Et ça s'entend en fait dans un jeu. On a tous fait des jeux doublés où tu te rends compte que le mec, il joue pas en fait. Il lit tout simplement ses répliques sans aucune émotion, sans aucune conviction, etc. Et ça
Ah
saute aux oreilles. Et
ah
j'imagine
bah.
assez bien Harrison Ford qui en a rien à faire de tout, qui déteste quasiment tous les projets dans lesquels il est impliqué. Donc je l'imagine assez bien faire ça très mal. Donc oui, je pense que le prendre quelqu'un qui le limite, ça serait une bonne solution.
Ouais.
Après, tu te ferais critiquer, c'est sûr. Il y a des gens en ligne qui disent « Ah, mais c'est même pas sa voix, etc. Vous pouviez pas dépenser aussi pour sa voix, etc. » Mais je pense que c'est le choix le plus safe.
Après, il y a des deepfakes vocaux hein, qui existent aussi. Hein. Tu te démerdes et puis voilà.
Ou tu demandes à Trace de doubler
Ouais.
Après, quelque part, c'est quand même assez légitime parce que ne serait-ce qu'en termes de budget, je pense que prendre un lookalike et prendre un Harrison Ford, ce sera quand même pas la même chose. Il y a effectivement ce risque qu'il soit bougon et je plus sois complètement ce que vient de dire Plume. Parce que pour le coup, je continue à suivre une série dont les doubleurs commencent à avoir un âge certain qui s'appelle The Simpsons. Et bah, ça s'entend très clairement, en fait, dans les nouvelles saisons par rapport à il y a 15-20 ans, les personnages, on les voit complètement différents, beaucoup plus éreintés, beaucoup plus, avec moins de souffle, avec moins de prestance. Et effectivement, voir un aventurier qui virevolte, qui s'accroche un peu partout avec une voix de vieillard, pour l'immersion, ce serait un peu compliqué. À moins que l'aventure se déroule dans sa maison de retraite ou un truc comme ça. Dans quel cas, ce serait cohérent. Mais en
Comme
dehors de
dans
ça.
la série Le jeune Indiana Jones, où on retrouvait Indy très vieux, avec d'ailleurs un œil poché, qu'on n'a jamais compris pourquoi il était poché. Peut-être qu'on aura la réponse avec Indiana Jones 5,
Ou
quand il
alors,
sera dans une course-poursuite en déambulateur.
on est complètement à côté de la plaque et c'est Shia LaBeouf qui va avoir le rôle principal du film, du
Bah
jeu, pardon.
écoute, à ce moment-là, j'ai envie de dire just do it. Voilà, c'est tout. Bon, on s'est assez penché sur la question d'Indy. Il y a eu une autre, parce que comme je vous le disais, ça s'est vraiment enchaîné. Il y a eu une autre annonce très surprenante. C'est celle, eh bien, d'un nouveau jeu Star Wars, mais pas chez Electronic Arts, puisque Electronic Arts va perdre l'exclusivité en 2023, après 10 ans. Bah, il y aura d'autres studios qui vont pouvoir se lancer, d'autres éditeurs et d'autres studios qui vont pouvoir se lancer. Et celui qui a été choisi, en tout cas celui qui a été révélé en premier, c'est Ubisoft. Alors
Eh ouais.
vos sourires en disent long, mais pour quel type de projet Ubisoft? C'est ça
C'est
le...
du massif, enfin massive, en monde ouvert, avec
Massive, c'est The Division, c'est ça?
ouais, c'est ça, c'est The Division, avec Brian Geraghty, je me souviens plus exactement comment on prononce son nom, qui est en directeur de la création du projet, qui est lui-même un des chefs de Massive. Donc, attendons-nous à
Si on pouvait arrêter le Ubi bashing de temps en temps, ce serait pas mal. Parce que
attendons-nous à du jeu servi du Star Wars service sur plusieurs années. Alors après, ils ont dit que c'était axé sur la narration, enfin, que ce serait un jeu très narratif, etc. Mais bon, c'est du monde ouvert, c'est du Ubi, c'est le studio de The Division. Enfin, ça te semble quand même dire pas mal, ça révèle pas mal de choses, je trouve.
Alors, du
Thomas.
coup, je dis ça que c'est forcément ce que je pense, mais je vais essayer de me faire l'avocat du diable parce que sinon je vais pousser les mêmes soupirs que Romain parce que intérieurement je partage quand même un peu son point de vue. On peut peut-être se dire que d'un côté, on a Electronic Arts qui va enfin passer la main après 10 ans d'exploitation et de temps en temps de shitstorm. On sait ce qui s'est passé avec Battlefront 2 par exemple. C'est peut-être l'occasion justement de renouveler un tout petit peu la formule et peut-être pour Ubi de tourner justement la page de tous les scandales de l'ère Ascoët, de tous les problèmes qu'il y a eu en termes de game design très similaire avec une ossature qui est quasiment tout le temps la même, des procédés narratifs. Pareil, dont on a largement soupé. Peut-être que, je vais être naïf, mais allons-y, ça sera justement l'un des premiers titres de chez Ubisoft qui attestera d'un changement d'air finalement et d'une nouvelle manière de peut-être penser les jeux ou de les confier à des personnes différentes et que bah, l'univers Star Wars sera l'occasion pour eux d'essayer de sortir un peu de ce carcan dans lequel ils ont été eux aussi enfermés depuis tant d'années. Donc ça promet sans doute des microtransactions hein, parce que c'est Star Wars et c'est Ubi. Mais quelque part, je leur souhaite en fait de profiter justement de cette opportunité qui est quand même assez énorme. Faire un jeu Star Wars, c'est surtout après 10 ans d'exclusivité du côté de chez Electronic Arts, il y a sans doute beaucoup de choses à dire bah pour peut-être essayer prendre des risques au niveau d'Ubisoft, donc des petits risques, mais quand même tenter de nouvelles choses, que ce soit en termes de game design ou de narration.
Ce serait un bon moyen de tourner la page, effectivement. Après, ils peuvent aussi réutiliser le système de Starlink et faire
T'es vraiment un salope.
un Starlink Star Wars.
Ouais, ou alors ils se concurrencent eux-mêmes, ils concurrencent leur propre BGE2 qui lui aussi nous proposera des voyages dans l'espace, soi-disant normalement ouvert. C'est quand même assez.
En
Enfin,
2057.
ouais, déjà il y a ça, mais c'est quand même un petit peu. Je sais pas. Ça me paraît assez sensible d'avoir confié du Star Wars à Ubi et. Et je sais pas moi non plus quoi en penser, même si mon avis, vos sourires de début voilà, comme là, par exemple, tout de suite, sont peut-être un petit peu exagérés parce que je pense que Ubi a quand même de belles choses à nous montrer régulièrement. Et je pense à Immortals Fenyx Rising, qui a un nom pourri, Mectoma a apprécié, qui était plutôt une bonne chose. Donc, à mon avis, il y a peut-être, on va quand même leur donner le bénéfice du doute avant même que ça commence.
Hey, arrête un peu, Pascal. Pardon. Comment dire? Ubisoft, ils nous ont quand même habitués à une certaine formule et à une certaine façon de faire. Donc, avec Thomas, on rigole, on a des petits sourires en coin, etc. Mais c'est pas pour rien, tu vois. C'est parce qu'on sait ce qu'Ubi fait d'une manière générale et leur procédé, leur manière de faire et le type de production qui en découle assez souvent. Après, là encore, c'est vrai qu'on est vraiment dans une période transitoire dans l'histoire d'Ubi, avec enfin, d'après ce qu'on nous a dit, un grand changement dans la manière de procéder, dans la manière de diriger. Après, là, les personnalités, enfin, la personnalité à la tête du projet, on la connaît. Elle a déjà de l'expérience chez Ubi en l'occurrence. On sait quel type de jeu le studio fait avec cette personne-là à sa tête. Donc, ça donne quand même de quoi penser à certaines choses. Mais bon, là encore, restons ouverts et on verra bien. En tout cas, c'est bien qu'il y ait, pour voir le bon côté des choses, c'est bien que ça change. C'est bien que ça change demain. C'est bien que ça qu'il y ait que de nouvelles personnes s'intéressent à Star Wars et avec de nouvelles idées peut-être, on l'espère. Mais après, il faut garder à l'esprit aussi que EA n'est pas totalement exclu, hein. Eux, ils ont tenu à insister là-dessus assez vite, parce
Oui,
que c'est vrai que ça
eux, ils avaient
sonnait.
l'exclusivité. Ils n'étaient pas, voilà, ce qui se termine en 2023, c'est pas, non, maintenant, Star Wars, c'est chez les autres.
Ah ouais. Ils disent qu'il y a quand même encore de nombreux projets, enfin, tels que eux le présentent. Ils ont de nombreux projets Star Wars en cours.
Bah,
Reste à
un
voir.
Fallen Order 2 serait plus que logique vu le succès qu'il a eu. Ce serait malheureux que Respawn n'ait pas le droit de faire la suite, surtout qu'en plus ça appelait une suite. Donc ça paraît assez logique. Et je crois que Squadron s'en sort aussi assez bien. Donc ça motiverait encore une fois là, à faire du nouveau. Finalement, on va se retrouver avec ce que Disney avait voulu exprimer il y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'il voulait que des développeurs s'amusent avec leur licence, qu'il y ait plus de choses qui soient faites, parce que Disney, la partie jeux vidéo, elle a été sabrée il y a quelques années, et que bah ils ont plus vraiment de boîte pour eux pour développer. Mais c'est vrai que le fait d'appeler d'autres, et là, en l'occurrence des grosses boîtes, ça peut aider pour un début. Moi, ce que je regrette personnellement, c'est justement que ce soit des grosses boîtes d'abord qu'on nous mette en avant pour ces choses. Parce que des studios qui pourraient faire du très bon taf avec du Disney ou qui pourraient avoir des idées géniales avec du Disney, c'est pas que Ubi ou Bethesda ou Electronic Arts ou Activision. Ça pourrait être des studios un peu plus modestes et un peu plus créatifs auxquels on donnerait des moyens pour faire quelque chose on va dire de fidèle aux licences Disney et en l'occurrence Lucasfilm.
Ah bah Star
Après,
Wars,
et
ça
justement,
Thomas.
ça participerait de cette volonté que Disney a d'exploiter, voire de surexploiter la licence, parce que on sait que depuis qu'ils ont acheté, il y a un tas de films, de séries, de projets qui sont en cours pour les années et les années à venir, et quelque part, ça appliquerait la même logique qu'ils appliquent au cinéma aux déclinaisons jeux vidéo, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de petites équipes, et même de quelques game designers, des gens connus. Je prends Mike Little au pif, mais je suis sûr qu'il ferait quelque chose de très intéressant, par exemple, avec la licence Star Wars, qui demanderait évidemment beaucoup moins de budget, qui aurait sans doute un succès un petit peu moindre, mais qui participerait justement à auréoler un petit peu la marque qui a besoin quand même quelque part de reprendre un petit peu de couleur dans le secteur du jeu vidéo, parce que même si les derniers jeux IS sont bien vendus, ce n'est pas non plus des chefs-d'œuvre, ce n'est pas des jeux qui prennent beaucoup de risques, c'est des déclinaisons quand même assez convenues, assez classiques, on va dire, de l'univers Star Wars en jeu vidéo. Donc il y aurait sans doute des choses à faire de ce côté-là. Est-ce que Disney, mastodonte, limite monopolistique aujourd'hui, est prêt à cette ouverture? J'imagine que non. Et c'est bien dommage pour les joueurs parce qu'on passe sans doute à côté de déclinaisons très intéressantes.
Romain.
C'est déjà arrivé que dans des interviews de développeurs indés, etc., t'es genre, que la question soit posée, sur quelle licence aimeriez-vous travailler, etc. Et c'est vrai que Star Wars, donc, quand il y a ce genre de questions posées, c'est souvent une réponse qui revient. Ça fait rêver beaucoup de gens. Mais là encore, je pense que de la part de Disney, tu as des attentes de retombées financières. quand tu confies la licence Star Wars à quelqu'un, et ce sont des retombées que les indés ou les plus petits studios peuvent pas forcément proposer. Et surtout que là, avec ce qui s'est passé avec EA, les différentes polémiques, etc., j'imagine que Disney est encore plus méfiant qu'il a pu l'être à une époque, parce qu'on se souvient que l'affaire des lootbox de Battlefront s'était remontée jusqu'à Bob Iger qui est quand même le PDG de Disney global, tu vois, c'est vraiment, on va dire, c'est le Satya Nadella de Disney, donc le Jeff Bezos, tu vois, c'est vraiment le big boss, et pour que lui soit tenu informé du truc et qu'il l'appelle en direct le PDG d'EA pour lui dire oh qu'est-ce qui se passe là? Donc ça prouve que ça avait pris une certaine ampleur et donc peut-être que Disney maintenant va être plus méfiant. Mais on sait aussi qu'historiquement, Disney et le jeu vidéo, il y a eu tellement de changements de politique. Alors d'abord, on confiait les licences à d'autres studios. Ensuite, on développait nos trucs en interne. Ensuite, bah non, ça rapporte pas assez d'argent. Donc on confie nos licences. Mais en fait, ils savent pas vraiment sur quel pied danser vis-à-vis du jeu vidéo. Il y a eu tant de changements au fil du temps. Donc à voir. Mais il y a aussi une question que je me posais, c'est qu'on parlait de l'exclusivité d'EA, mais à côté de ça, tu avais quand même Warner avec Telltale qui faisait les...
Ah, les Lego, oui.
Traveller Tales, pardon,
Ouais.
TT Games, qui faisait les jeux Lego. Et on sait qu'il y en a un qui est en développement depuis plusieurs années, qui va sortir. Donc ça devait être une exclusivité, mais pas
Lego.
totale. C'était peut-être sur un type de jeu en
Ouais.
particulier.
C'est la licence Star Wars globale qu'ils ont, hein. C'est pas
Ouais.
le Lego, c'est encore un truc à part.
Ouais, Lego, c'était à part. Mais donc, ouais, maintenant, on sait qu'Ubi va bosser dessus, on sait qu'EA va continuer de bosser dessus. Le risque, c'est que d'autres studios, enfin d'autres éditeurs se mettent dessus aussi. Et tu pourrais saturer le marché de jeux Star Wars comme ils ont pu saturer les cinémas, tu vois. Et finalement, ça causerait du tort à tout le monde parce que les gens, hein, au bout d'un moment, ils vont peut-être finir par en avoir marre. Si on leur met trois jeux, en même trois jeux Star Wars à 6 mois d'écart dans les rayons, bah ça, il y aura peut-être pas de place pour tous, quoi.
Vu que Disney Plus commence à nous sortir des séries on finit par être obligé de vouloir regarder, comme The Mandalorian, comme il y aura une série sur Obi-Wan Kenobi, comme il y aura une série sur Boba Fett, que Camille va sûrement regarder avec beaucoup d'attention. Bah, je pense qu'au contraire, il y a une espèce de demande de flux Star Wars qui est importante. Enfin, je veux dire, quand on a connu la disette de un Star Wars tous les 3 ans, ça c'était pour la première trilogie et la deuxième trilogie, et que même il y a eu un écart assez monstrueux entre chacune des trilogies, tu peux n'être que content quand tu es un gros fan qui a acheté les bouquins, qui a joué au jeu de rôle, qui a vraiment une envie d'explorer l'univers de Star Wars de toutes les manières possibles. Tu ne peux qu'être content. Et en plus, ce genre de choses, le fait que Lucasfilm Games revienne, que Star Wars commence à être de retour, on va dire de manière un peu plus formelle, sur le domaine du jeu vidéo, ça donne aussi des espoirs que les visions de Amy Hennig puissent se concrétiser, par exemple. Sait-on jamais, peut-être qu'elle va aller ailleurs et dire, bah voilà, mon jeu Star Wars, ah, ça y est, j'ai oublié mon Ragdoll, peut-être que je vais essayer d'en proposer une version différente à un autre studio pour que Disney approuve. Peut-être que Star Wars 13-13, au moment où la série Boba Fett va être diffusée, va commencer à revenir d'une façon ou d'une autre. Ça peut permettre des tas de choses, finalement.
Pour que ça, enfin, je pense que pour que ça puisse éventuellement arriver, il faudrait un temps infini parce que tous ces gens-là sont partis sur d'autres projets entre-temps, ont d'autres préoccupations maintenant en tête et ont peut-être clôturé la page justement 13-13 dans leur esprit. Est-ce que Disney changera d'avis là-dessus? Ça paraît quand même assez compliqué. Et si ça devait se produire, ce serait pas avant, je pense, un paquet d'années quand même. Ce qui nous rappellerait effectivement l'espacement des films, des différentes trilogies à travers le temps.
Bon, ben voilà.
Après,
Oui, Thomas.
ce sera l'occasion de voir si justement le fait d'avoir ressorti de son chapeau la marque vraiment Lucasfilm Games, qui est très chère au cœur des vieux joueurs quand même qui ont connu les grandes années, l'âge d'or des jeux LucasArts à une certaine époque, est-ce que ça sera juste un effet de manche et dire regardez, on a encore cette marque avec nous, ou est-ce qu'ils vont essayer de s'occuper d'un minimum, de proposer un minimum de qualité justement dans les productions qui vont être estampillées Lucasfilm Games. Ce sera intéressant de surveiller, de voir si voilà, on sort d'une simple dimension marketing, des noms, qui font fureur à tous les coups, pour voir s'il y a une volonté de proposer véritablement de la qualité, ce qui était malheureusement en projet à droite à gauche, et qui ne verra a priori jamais le jour, en tout cas pas tout de suite.
Très bien. Bon, Lucasfilm Games, ce sera évidemment une série à suivre avec beaucoup d'attention sur les prochaines années. Ce ne sera pas pour tout de suite, hein, pour les jeux Ubi ou Bethesda, évidemment. Le thème numéro 2 de la semaine, c'est ce qui est apparu en fail assez fréquemment dans notre podcast. Cette fois, on lui consacre un thème complet. C'est Cyberpunk 2077 qui continue de faire parler, peut-être un peu trop, si vous voulez mon avis. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, la semaine dernière, peu après que nous ayons fini d'enregistrer le podcast, dans la soirée, c'est Marcin Iwiński qui s'est présenté pour présenter des excuses. Alors, je mets des guillemets parce que dans son message, il y a des choses qui ne sont pas très propres, je dirais, même s'il dit que la faute d'une sortie un peu trop précipitée, surtout sur console, CurrentGen, lui revient à lui et au directoire de CD Projekt dans son ensemble. Il a quand même tendance à remettre un peu la faute sur le département test Q&A de CD Projekt Red. Bon, après, il atténue en disant que c'est sûrement des choses qui se sont perdues dans les communications, dans les mails, mais ça reste une espèce de prise de parole un peu maladroite pour expliquer que finalement, ils sont merdés. Voilà, ils ont tout simplement merdé. Et ça, c'est le genre de choses qui, encore une fois, enfonce un petit peu plus CD Projekt Red. Messieurs, qu'est-ce que vous pensez, encore une fois, de cette situation qui s'éternise et qui est de plus en plus catastrophique pour l'image de CD Projekt?
Il y a deux choses.
Romain.
La première, c'est que je m'inquiète pour l'état de santé de ce bon vieux Marcin Iwiński, parce que t'as ce même qui évolue d'année en année avec son apparence physique de jeu après jeu.
Les mecs ont vieilli, hein. Je suis désolé.
Non, mais là, c'est pas que du vieillissement.
Mais quand on vieillit, on fatigue.
T'as l'impression qu'il a enchaîné 4 mandats présidentiels, parce qu'on sait que les présidents de la République, entre le moment où ils rentrent dans le poste et ils en sortent, en principe, ils prennent un méchant coup de vieux bien plus important que le nombre d'années passées au poste.
Et là, ça va même plus vite pour les premiers ministres encore qui blanchissent encore plus. Mais c'est intéressant que tu parles de ça, parce que moi, j'en parlais avec Luffy, je me demande à quel point ça a été de la mise en scène ou pas. Tu vois, ce côté fatigué, les cheveux longs, etc. C'est vrai qu'il a une tête qui fait un peu peur. Je me demande s'ils n'en ont pas rajouté, tu vois, un tout petit peu pour avoir ce côté mansuétude. Vous voyez, on est au bout du rouleau, on est vraiment désolé de ce qui s'est passé. Je me pose la question.
Oui, non, mais exagérons rien non plus.
Le côté triste et solennel de la chose, oui, il est forcément étudié, parce qu'il ne va pas arriver tout sourire vu les choses dont il doit parler, mais les cernes et tout. Et tu regardes les autres photos de ce même. Elles ont été prises, ce sont des captures d'écran d'interview, en fait, de trucs pas forcément mis en scène. Et donc là, tu vois effectivement le changement. Là, son visage se creuse et tout. On dirait presque un zombie maintenant. Mais bon, donc ça, c'est la première chose.
Si tu vivais à Varsovie, mon vieux, je peux te dire que tu connaîtrais exactement le même destin. Tu n'aurais plus cette tête de jeune premier.
Faut se poser les bonnes questions dans ce cas-là.
Depuis quelques années, il m'a des fois parlé de se tirer une balle dans la tête s'il restait là-bas une année de plus. Donc effectivement, la vie n'est pas, a priori, super rock'n'roll à Varsovie.
Mais donc la deuxième chose, c'est que je trouve ce message et le fond de ce message absolument honteux. Je trouve que CD Projekt Red prend les mauvaises décisions avec Cyberpunk 2077 à peu près depuis le début. Et visiblement, ils ont dit on ne change pas une équipe qui perd. Je trouve absolument honteux de jeter la pierre sur le Q&A. Parce que dans un studio, surtout dans un studio de l'ampleur de CD Projekt Red, le Q&A, ça fait partie des personnes les plus mal payées de l'équipe de développement. Ce sont celles qui enchaînent les journées de travail parmi les plus longues sur des périodes absolument délirantes. Et donc dire que la faute leur revient à eux, sachant pertinemment...
Il le dit pas clairement non plus. Hein. Il l'insinue très fort.
Les bugs vus sur PS4 et Xbox One, s'il y a bien une partie du studio qui en avait conscience et qui a fait remonter l'info, c'est le Q&A. Eux, ils testent le jeu depuis des mois et ils y jouent peut-être voire depuis des années à des bouts découpés. Et même nous, avant la sortie du jeu, avant les tests, etc., enfin, des rumeurs sortant du Q&A qui disaient que les versions current gen n'étaient absolument pas prêtes, etc., on en avait conscience. Donc si nous, de l'extérieur, on avait conscience de la chose et on en avait entendu parler, c'est pas le big boss, enfin les big boss de CD Projekt Red, eux, oh ben non, nous, on nous disait que tout allait bien, on nous avait pas vraiment donné d'infos sur l'importance du problème, etc. C'est bidon, c'est
Oui,
complètement bidon.
il y a forcément de la mauvaise foi, de toute façon.
Ils essayent de sauver
Ils
leur peau.
essaient de se défendre, de toute manière.
Il n'y a pas que de la mauvaise foi. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait que de la mauvaise foi parce que dans les confessions qu'a recueillies Jason Schreier, il y
Alors ça,
a.
c'est la suite. C'est la suite de la, c'est la continuité. C'est que Jason Schreier a répondu à un nouvel article sur Cyberpunk 2077, son 70e, je pense. Et il explique, enfin, il a réussi à avoir des témoignages d'une vingtaine de personnes environ, dont un qui n'est pas anonyme quand même, qui est un ancien audio directeur du studio, qui reviennent vraiment en détail sur tout le processus de création du jeu. Et ça a l'air d'être, si on se fie en tout cas à ces déclarations, ça a l'air d'être un sacré putain de bordel.
Et il y a des phrases dans l'article qui sont assez dingues. Il y a des citations justement de développeurs qui témoignent de la prise de décision en fait au sein de CD Projekt Red. Et il y a des choses qu'on n'imagine pas entendre en fait dans un comité de direction tel que celui-là. Il y a plusieurs fois où justement des développeurs et peut-être des gens du Q&A alertent sur les avancées, sur les plannings absolument intenables qui ont été proposés par la direction. Sur tout un tas de problèmes qu'ils vont rencontrer pour réussir à maintenir la vision qu'ils avaient justement de cet univers. Et moi, il y a une phrase vraiment qui m'a fait tomber par terre. C'est un des décideurs qui dit: Non, mais c'est pas grave, on verra au fur et à mesure. C'est vraiment, on s'en fout, on avance, on verra bien. Et tu as l'impression qu'il y a une espèce d'injonction magique. Il y a un truc qui va faire que la mer va s'ouvrir pour CD Projekt. Ils vont réussir à esquiver tous les problèmes, à cruncher comme des tarés et à réussir leur pari, qui moi, vraiment m'interpelle parce qu'on a l'impression justement de directeur complètement déconnecté en fait de la réalité véritablement du terrain et sourd aux différentes alertes. Parce que c'est ce que disait Romain, on se rend compte à la lecture du papier de Schreier que les voyants se sont allumés à plein de reprises pendant le développement. Ils ne pouvaient pas ignorer que c'était extrêmement compliqué de tenir les délais, et encore les délais d'origine, puisqu'on sait que le jeu a été repoussé maintes et maintes fois avant qu'il sorte dans l'état qu'on lui connaît. Bref, on se rend compte que derrière tout le vernis et la communication sympathique qu'on a eue de la part de CD Projekt, il y a eu une vraie cécité en fait, vis-à-vis de ce qui se passait, une volonté de sortir quoi qu'il arrive. Et ce qu'il faudra voir, je pense, sur la durée, c'est s'ils vont réussir ou combien de temps ça leur demandera de se remettre finalement de ce scandale, parce qu'on sait que maintenant, là où la période post-launch aurait dû leur permettre de communiquer sur tout l'après, sur les nombreux modes qui vont arriver au fur et à mesure, là, on sait bien que ce qui va les occuper d'abord dans les prochains mois, c'est d'essayer de décoper et de rendre la version current gen jouable, sans même parler des patchs des versions PS5 et Series X qui vont arriver, oula, en 2021, si
Deuxième
tout va bien.
semestre, ouais.
Semestre, mais donc ça peut laisser imaginer encore des reports ou en tout cas un fin de deuxième semestre 2021. Bref, on voit que tout le planning finalement de CD Projekt est modifié et ça va être intéressant de voir comment ils vont réussir à gérer ça et si, in fine, dans allez, 2, 3 ans, les joueurs leur pardonneront ces nombreux écarts et si leur méthode de management et de planification va changer parce que là on se rend compte qu'il y a eu des grosses erreurs dans toute la gestion de ce projet.
Mais tu vois, dans les témoignages de Jason Schreier, il disait qu'il prenait les paris sur la date de sortie du jeu en interne et que beaucoup pariaient sur 2022 à la base. Et c'est là où tu te dis que, en fait, il y a eu un. Alors, je ne sais pas si c'est de l'avarice ou un manque de clairvoyance ou je sais pas quoi, avec la pandémie. CD Projekt avait une occasion rêvée d'annoncer un report conséquent et de le justifier, en fait. Ils auraient pu utiliser ce prétexte, comme certains l'ont fait, dire que la pandémie leur avait causé beaucoup de tort en termes d'organisation et de manière de travailler, etc. Et que par conséquent, ils avaient besoin de plus de temps. Parce que là, officiellement,
En fait, dans les déclarations, justement, c'est un des arguments qui est mis en avant, c'est le fait que le travail à distance leur a fait perdre une espèce de motivation collective et d'énergie, etc. Donc, ça fait partie des arguments qui ont été invoqués.
Mais ça, c'est assez léger parce qu'il y a eu des petits reports sur la fin, etc. Mais là, tu vois, en l'état, officiellement, la version PS5, le patch PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk, il est maintenant prévu pour la fin 2021. Donc, ce qui veut dire potentiellement un an après la sortie officielle du jeu sur PC, PS4 et Xbox One. Donc, ils auraient pu finalement retarder leur jeu d'un an. Je pense qu'ils. Au minimum, enfin, je pense que ça
Sur
aurait été
console, hein.
faisable. Oui,
Sur console.
ouais, mais
Parce
je
que
les imagine assez mal. Je les imagine assez mal sortir la version PC et sortir la version console un an plus tard.
C'est ce
C'est
qu'ils avaient fait à l'époque de The Witcher 2,
ouais, c'est pas
Sins of King, la version Xbox 360, qui était une
tant changé.
version un poil downgradée par rapport à la version PC, mais quand même excellente, était sortie un an, ou oui, un peu plus d'un an après la version PC. Donc, et la version PC, à ce moment-là, était aussi comment dire?
Être étalon.
Exactement, en termes techniques, enfin, moi j'avais acheté une bécane exprès pour ce jeu-là, et je sais pourquoi aujourd'hui, comme avec The Witcher 3 aussi d'ailleurs. Donc moi ça m'aurait pas paru complètement fou qu'ils procèdent de cette façon. Bon, après, voilà, ils ont préféré sortir une version injouable, vidée de toute sa substance pour les versions PS4 et Xbox One. Bon, voilà, c'est tout.
Vous vous rendez compte du tort que ça leur cause?
Ouais.
Et de
Surtout que c'est un cercle vraiment mais vicieux depuis le début de la sortie. C'est-à-dire qu'on sait que les versions PS4 et Xbox One sont pourries. Eux font un peu la sourde oreille d'abord, puis ensuite ils reconnaissent. Et malgré tout, après ça, t'as beaucoup, 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 beaucoup de vidéos qui continuent à montrer le mauvais côté du jeu. C'est ce qu'on fait à chaque fois qu'un jeu en monde ouvert un peu buggé sort. Je veux dire, les Assassin's Creed, ils ont pris mais tellement cher pour certains. Pour des raisons souvent mais complètement grotesques. Je vous parle pas même pas de No Man's Sky quand il est sorti. Ça a été pendant des mois et des mois pour certains de ces jeux, je vais pas dire des cabales, mais pas loin, pour essayer de me dire, bon bah voilà, regardez, c'est vraiment de la grosse merde. Tout ça pour essayer de mettre, on va dire, de placer en faute les décisionnaires de la société, qui eux, du coup, bah, se braquent. Et on peut voir les échanges avec Jason Schreier, ou les non-échanges avec Jason Schreier d'ailleurs, qui fait son boulot, qu'il fait plutôt bien au passage. Mais on peut voir qu'il y a beaucoup de tensions, alors qu'il suffirait juste pour eux de reconnaître leur tort, tout simplement, tu vois. Vraiment dire la vérité, bah, on a merdé, les gens avec qui on a bossé, on leur a imposé des choses qu'on n'aurait pas dû leur imposer, on leur a imposé des délais qui étaient absolument pas tenables, et ça a donné tout ce que vous avez vu.
Justement.
Et voilà cette espèce de haine permanente qui traîne autour de Cyberpunk, elle ne glorifie absolument personne. C'est un truc, enfin comment dire, une espèce de mode qui devrait peut-être s'arrêter un jour, je pense, parce que ça fait pas du bien. Je pense aussi aux développeurs, les développeurs qui voit tous les jours, tiens, ah bah j'ai trouvé ce bug, il est génial, ça fait que le jeu, je pense qu'il est pourri, alors que moi, je vous le dis, j'adore ce jeu, et je sais pourquoi, mais quand je vois Badowski, donc, qui répond à l'enquête de Schreier en disant, oui, mais bon, en attendant, notre jeu, il a eu des 10 et des 9, bah moi j'ai mis 10, je sais pourquoi, mais par contre, que lui se serve de cet argument pour dire, non, mais finalement, ça veut dire que tout va bien, ça me semble quand même vraiment très mauvais en termes de défense, et ça prouve vraiment que faudrait arrêter aussi de vraiment se braquer, vous savez, de confronter, non mais de confronter de manière offensive à chaque fois, juste dire ce qui se passe, et ça serait suffisant, quoi, tout simplement.
Mais après,
personne ne détient la vérité et qu'il faut nuancer un petit peu ses propos quand on est en jeu.
Exactement.
Mais
À la
moi,
fin.
j'ai l'impression
Oui, sûr.
qu'en interne, ils ont fait justement tout l'inverse de ce que j'explique. Il y a un moment donné, justement, l'une des confessions que Schreier recueille explique qu'alors que le développement allait mal, que le planning n'était pas tenable, etc., qu'il y avait tout un tas de problèmes, l'accent est mis sur le marketing et la communication. Des fonds rentrent et ils sont arrivés justement au budget com pour bien parler du jeu, pour faire monter la sauce, etc. Ce qui a fonctionné, puisqu'on l'attendait quand même tous ou presque comme des petits fous. Mais on voit bien en fait où le curseur a été mis par CD Projekt. En fait, et une fois de plus, ça montre qu'ils se fichaient quelque part, ils se détournaient de la réalité juste pour vendre quelque chose de magnifique, énormément de promesses. Promesses qui sont a priori sur la version PC, et tant mieux pour les gens qui peuvent en profiter. Mais voilà, ça montre une manière de fonctionner en interne qui est a priori complètement déconnectée.
Après, il y a les réactions de la direction de CD Projekt. Au fond, elles sont assez naturelles. Quand tu es attaqué comme ça, le réflexe de n'importe qui, c'est de se défendre. Parfois de manière mal calculée, tu vois. Enfin, c'est le
moi, je préfère comme Hello Games avait fait. Je dois avouer que Hello Games, pour ça, ils ont été exemplaires, parce que eux, ils ont rien dit. Ils s'en sont pris mais plein la tronche pendant des mois parce que le jeu respectait pas les promesses. Bon, voilà, ok. Et ils sont revenus. Et à la limite, s'ils avaient dit que le jeu était une early access, peut-être que ce serait encore mieux passé. Mais bref, ils sont revenus deux ans après. Le jeu, maintenant, il est impeccable. No Man's Sky, c'est une expérience vraiment, mais extraordinaire. Le seul truc, c'est que, ouais, voilà, ils n'avaient pas. Si c'était, imagine si c'était braqué à ce moment-là, ouais. Ça serait mal passé, quoi.
La différence, c'est que No Man's Sky, dans l'état dans lequel il sort, oui, la promesse de base n'est pas respectée, mais le jeu est totalement jouable. Il n'y a pas de problème de réalisation, etc. Là,
oui, c'est une histoire de promesse et de bug, là. Oui, c'est
oui,
vrai.
Et il y a aussi de tromperie. Ce que CD Projekt a fait avec la presse et avec les versions review, etc., et la com dans les mois qui ont précédé, et même après, vis-à-vis des investisseurs, genre dans les réunions d'investisseurs, etc., avec les sessions de questions-réponses, quand les investisseurs demandent « Oui, sinon, les versions PS4, Xbox One, elles en sont où? Comment ça va ?»« Non, non, vous inquiétez pas, tout va bien. » Elles sont même étonnantes par rapport à la capacité. Elles tournent étonnamment bien. On a vu ce que c'est que le étonnamment bien selon c'est les projets Cred. Mais tu vois, tout à l'heure, l'un de vous deux évoquait l'article de Jason Schreier et c'est toi Thomas qui disait oui, on verra ce qui va se passer, etc., où ça va aller, des trucs comme ça. Et il prenait souvent en référence The Witcher 3. Oui, vous avez vu, on a réussi à sortir The Witcher 3, donc les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Mais c'est un peu la même mentalité qu'avait BioWare avant Anthem. Oui, mais nous, on a sorti tous les Mass Effect, ou avant Mass Effect, comment il s'appelle le dernier là,
Andromeda.
Andromeda. Avant Mass Effect, Andromeda. Oui, mais vous inquiétez pas, vous avez vu ce qu'on a sorti avant, ça va s'arranger. Mais non, les choses ne s'arrangent pas comme par magie. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, il y a un gros problème dans la manière de gérer les choses du côté de chez CD Projekt Red. Et je comprends ce que tu disais, Plumeau, tout à l'heure au sujet de l'acharnement, etc. Mais s'il y a bien un cas pour lequel l'acharnement est justifié et mérité, c'est celui de Cyberpunk 2077. Et je pense que... Alors après, il y a toujours des trolls. Il y a des trolls qui vont s'amuser avec les bugs, etc., qui vont essayer... Tu sais, les gens qui adorent voir le monde brûler.
C'est, exactement.
Ça les amuse, c'est comme ça. Donc eux, on pourra jamais les éviter. Mais à côté de ça, il faut vraiment insister sur le comportement désastreux et déplorable qu'a eu CD Projekt Red, aussi bien vis-à-vis de son équipe que vis-à-vis des investisseurs, que vis-à-vis de la presse, que vis-à-vis des joueurs. Enfin,
c'est pour ça que je préfère que ce soit les articles
à voir dans cette histoire.
Je préfère que ce soit les avis de Jason Schreier, enfin les dossiers de Jason Schreier, plutôt que une seconde prise dans le jeu pour un bug que ça se trouve personne n'aura à part cette personne-là. C'est un bug genre le raccourci de Mario Kart 8 Deluxe qu'on a vu il y a quelques non Mario Kart sur Wii pardon qu'on a vu il y a quelques jours. C'est mettre l'accent parfois sur des choses qui n'existent peut-être pas sans qu'on vraiment mette la loupe dessus, quoi. Ouais, mais c'est après... ça le problème. Moi, je préfère les trucs de Schreier qui expliquent les choses de manière on va dire, plus raisonnée, avec des vraies infos, que juste montrer le jeu et déduire par l'attitude d'un PNJ ou parce qu'un flingue vole, un vol en l'air ou je ne sais quoi d'autre, que le jeu est pourri à ce moment-là.
Ouais, alors après, je pense que les gens qui étudient et qui se renseignent sur l'affaire savent faire la part des choses et savent faire la différence entre les
Ah mais
problèmes de direction
pour le grand public, c'est une autre histoire.
Oui, bah alors après, l'autre cas de figure aussi, c'est l'ampleur des bugs. Ah oui, si c'était un mec par-ci par-là qui montre son bug, oui, on serait là, oui, c'est rigolo, mais c'est pas représentatif. Mais là, quand même, on est à un niveau de bug
Ah bah
qui est dans une autre galaxie.
sur PS4 et Xbox One, de toute façon, c'était injouable. Donc là, mais et ça s'est arrangé visiblement. Là, j'ai pas osé continuer perso, mais ça s'est visiblement arrangé.
Regarde le cas des jeux des Assassin's Creed d'Ubi, par exemple. Je crois que celui qui avait fait le plus parler à ce niveau-là, c'était Unity.
Ah
Quand
oui.
tu avais les textures qui apparaissaient pas, les yeux qui étaient exorbités, etc., tous
Ah
ces
putain,
trucs-là.
oui.
Oui, on en a rigolé pendant quoi, 2 semaines? Mais ensuite, on est passé à autre chose parce qu'on arrive à faire la part des choses quand même entre quelques bugs qui apparaissent par-ci par-là et un jeu qui est complètement cassé ou qui est pas fini, quoi,
Ouais.
qui est à peine à 50% de son développement au moment où il sort.
Bah,
Bah.
mais sauf que Assassin's Creed Unity, justement, quand il est sorti et qu'on a commencé à avoir autant de gens qui mettaient l'accent sur les bugs, il est passé justement immédiatement dans la case des jeux pas finis, des jeux pourris, etc. C'est devenu une espèce de mini-campagne dessus. Et d'ailleurs, je crois que c'est après celui-là qu'il y a eu une pause, je sais plus.
Non, parce que juste après, il y a eu Syndicate,
Syndicate, oui.
ils ont fait une petite pause pour remanier un petit peu la formule de fond
Bah,
en
tu
comble.
vois, c'est nécessaire aussi. Ou alors,
Oui, bien sûr.
plus récent encore, WWE 2K20, genre qui est absolument honteux en termes de niveau de réalisation et de niveau d'avancement au moment où il sort. Là, c'est pareil, c'était vraiment quelque chose qui pouvait parfois sembler être de l'acharnement, mais c'était nécessaire. Et ce qui a incité, comment dire, Touquet à changer son fusil d'épaule. La preuve en est, l'année dernière, à la fin de l'année, on n'a pas eu d'épisode de Touquet. Ils prennent leur temps pour revoir leur copie, etc. Alors, est-ce qu'ils vont y arriver ou pas? On ne le sait pas. Mais au moins, tu vois, le fait de s'être amusé des bugs et de les avoir soulignés, etc., etc., bah, ça peut potentiellement avoir un impact positif, peut-être sur les développeurs qui seront peut-être moins incités à rusher leur jeu pour sortir à temps, ça c'est pas sûr, mais aussi sur les joueurs qui, en fin de compte, auront peut-être des produits de meilleure qualité une fois tous ces problèmes passés en revue. Je sais pas, c'est une affaire tellement compliquée, mais Cyberpunk, c'est quand même un cas d'école, c'est un cas sans précédent. Moi, je suis dans le milieu depuis une dizaine d'années et je lis la presse spécialisée depuis au moins 10 ans de plus avant ça. Et je n'ai pas de souvenir d'un cas tel que celui de Cyberpunk 2077. Là, on en a parlé plusieurs fois, hein, donc on ne va pas revenir sur tout, mais il y a tellement de problèmes à tellement de niveaux que c'est quand même assez incroyable.
Thomas, tu voulais rajouter un dernier mot avant qu'on passe à la suite?
Un dernier pour le coup, c'est que tu en as parlé. Moi, je pense aussi aux développeurs parce que dans l'enquête de Schreier, on apprend notamment qu'ils ont crunché jusqu'à 13 heures par jour, toutes les semaines, pendant des mois et des mois. Et que voilà, les mauvaises décisions prises par l'équipe dirigeante, elles ont des répercussions directes sur, une fois de plus, les gens, les petites mains, les gens qui ont vraiment la tête dans le chantier. Et il y a des témoignages qui, comme chez Rockstar, comme chez tant d'autres, c'était les enquêtes que Schreier publiait dans Kotaku à l'époque, il y a des couples qui ont été brisés, des mariages qui ont été foutus par terre, des gens qui sont partis en dépression, etc. Et voilà, ça c'est vraiment la part sombre du développement. Et malgré tout ça, malgré ces gens qui ont été mis sous pression, tirés dans tous les sens, eh ben, le jeu est sorti dans l'état qu'on y connaît sur PS4 et Xbox One. Et on imagine quand même toute la peine de ces gens qui ont trimer et tout donner pour bah, se faire bâcher indirectement, même si c'est évidemment pas eux qui sont visés par toutes les moqueries, les mèmes, les gifs qui sortent du jeu. Je pense que quand tu vois ça et que tu as laissé une partie de ta santé, tu as quand même une larme qui perle au coin de l'œil, quoi.
Forcément,
Et c'est là où c'est
forcément.
important pour nous de faire le distinguo dans nos critiques, tu vois.
Bien sûr.
De bien déterminer de qui on parle et pas jeter la pierre faussement aux personnes qui sont les premières victimes, au fond. C'est avant que la presse, les investisseurs, les joueurs, tout ça prenne, bah, les premiers à avoir pris cher, c'est eux, quoi. C'est un groupement de victimes. Et d'ailleurs, quand tu regardes la réponse de CD Projekt à l'article de Schreier, il y a pas mal de passages qui n'ont pas de réponse, en fait. Mmh. Ils ont bien sélectionné les thématiques sur lesquelles ils voulaient revenir et sur lesquelles ils voulaient se défendre, souvent maladroitement. Mais ça, c'est pas nouveau, pour le coup, depuis la sortie du jeu. Et donc, voilà. Et, je pense qu'on n'a clairement pas fini d'en parler, surtout que là, il y a encore une class action qui a été intentée en Californie. Donc, ils vont devoir... mais là, pour le coup, les class action, c'est purement financier. Hein. Ce sont les investisseurs, etc., qui veulent que CD Projekt rende des comptes. Mais ça montre que l'affaire Cyberpunk, elle est loin d'être terminée. Il faut aussi maintenant savoir les patchs correctifs, le contenu additionnel, les versions next-gen. Quand vont-elles arriver ? Parce que là, on a des estimations, etc. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tenir ces nouveaux délais, ou est-ce que ça va être reporté ad vitam aeternam ? Est-ce que les versions PS4 et Xbox One finiront par être dans un état d'essence ? Ou alors, est-ce qu'au bout d'un moment, ils vont dire « Bon, bah voilà, c'est la dernière mise à jour qu'on fait pour ces versions-là, parce qu'on préfère se concentrer sur les versions next-gen. » Et en plus, on voit que ça a beaucoup fait parler ces dernières heures. Les versions PS4 et Xbox One boîtent, elles sont déjà bradées par nombre de revendeurs, quoi. Et là, ça soulève une autre question. Qu'est-ce que ça implique pour les versions next-gen, sachant que CD Projekt avait déjà dit que les versions next-gen seraient des mises à jour gratuites.
Et ouais.
Mais si les versions old-gen sont bradées en boîte, alors ça veut dire quoi ? Qu'ils vont les remettre en vente, par exemple, puisqu'ils vont mettre une version PS5 en vente en boîte à prix plein pot à sa sortie ? Ou est-ce que les gens pourront continuer d'acheter à 30€, voire moins, les versions PS4 et Xbox One pour bénéficier de la mise à jour next-gen gratuite et donc d'un jeu AAA next-gen pour pas trop cher. Enfin, il y a encore tellement de sujets potentiels et de thématiques à aborder et de questions sans réponse. Enfin, c'est dingue.
C'est complètement dingue, absolument. Et on y reviendra forcément un de ces quatre. Mais espérons en attendant que ça va se calmer un petit peu, que ça va se tasser quand même à un moment ou à un autre. On a fini avec Cyberpunk. On va passer à l'enflammate de la semaine. Voilà, on va l'appeler ça comme ça. C'est tout simplement un simple trailer qui est apparu la semaine dernière, parce qu'on ne parle pas beaucoup de Nintendo. On s'en plaint souvent, d'ailleurs, de ne pas parler assez de Nintendo et de leurs jeux, qu'il n'y a pas suffisamment de production qui apparaissent dans le planning, même si on a reparlé. Enfin, Camilla a promis, plus ou moins, que Bayonetta 3 serait remis sur le tapis en 2021. Donc, je vous laisse imaginer la détresse quand je lis ça et que je me dis, bon, du coup, ça veut dire qu'il ne vise pas 2022 ou 2023. Bref.
Il a dit qu'il allait sortir, hein. Il a dit qu'on aurait éventuellement des infos.
Des infos. Du coup, c'est vraiment. Mais alors,
si les planètes sont alignées.
C'est vraiment affreux pour un jeu annoncé en 2017, qui plus est. Bref, on va pouvoir parler d'un jeu Nintendo Switch, ou plutôt d'une réédition d'un jeu Nintendo Switch, avec un mode supplémentaire, c'est Super Mario 3D World, parce que son petit trailer qui est paru la semaine dernière, on l'a expliqué tout à l'heure, il a fait un gros effet. Mon cher Thomas, toi qui aimes les chats, tu peux nous en dire plus. Enfin, toi qui aimes plus les chats, parce que j'aime aussi les chats, mais je préfère les chiens.
Mais j'aime tous les animaux, moi. Mais effectivement, j'ai une affection particulière pour les chats et Nintendo aussi, puisque en fait, on se rend compte qu'ils prennent appui sur l'esthétique de Super Mario 3D World et donc la fameuse transformation en Mario chat, en Mario Toad, Peach, etc., parce que tout le monde pouvait se transformer. Et ça nous a permis de lever certains doutes, puisqu'on nous avait présenté ce qu'était Bowser's Fury à travers une séquence vraiment très courte, une espèce de plan-séquence, en fait, qui nous montrait un environnement un petit peu ouvert, avec une tempête qui avait l'air de faire rage. Là, on a pu découvrir de quoi il allait retourner. Donc, a priori, il faut s'attendre à un espèce de monde ouvert donc, qui s'inspire plutôt de Mario Odyssey, quelque part, que des niveaux assez courts de Super Mario 3D World. Donc, avec, a priori, une liberté de mouvement. Et surtout, un acolyte, pas piqué des hannetons, comme dirait l'autre, c'est Bowser Jr. qui va nous filer un coup de main. Et qui, lui, semble ramener une influence un peu plus ancienne, qui est celle de Super Mario Sunshine, puisqu'il est doté d'un petit pinceau qui devrait, a priori, nous aider d'une certaine manière. Et surtout, on a découvert ce que c'était que la furie de Bowser, l'éponyme furie de Bowser, puisque dans les extraits de gameplay qui ont été publiés juste après, parce qu'on a eu effectivement un trailer mais après 7 minutes de gameplay partagé entre 3D World et Bowser's Fury, où on se rend compte qu'en fait, Bowser a l'air de prendre la place d'un espèce d'événement aléatoire qui va se déclencher comme ça en cours de partie et qui, littéralement, va faire pleuvoir sur Mario le feu sacré, puisqu'on a vu des attaques qui venaient du ciel, on l'a vu cracher du feu, ce genre de choses. Bref, on a un élément a priori assez inédit, puisqu'on n'a pas d'aléatoire en fait, comme ça dans les épisodes 3D de Mario, ce n'est pas quelque chose qui existait. Donc, on sent qu'ils ont l'air de profiter de l'occasion pour tester peut-être un petit peu des trucs et aller plus loin que la formule Odyssey, qui prenait déjà des risques en proposant quelque chose de très, très ouvert et de très libre en termes de cheminement et de game design. Là, a priori, il y aura de la nouveauté. Et du coup, ça, plus l'esthétique chat, puisque le temps fort du trailer, qui est rapidement devenu un mème, c'est cette transformation de Mario en Giga Mario chat, si je ne dis pas de bêtises, selon la terminologie officielle de Nintendo, qui du coup prend la taille d'un kaiju, parce que moi, c'est un peu à ça que ça fait penser. C'est les vieux films de kaiju japonais où on a Bowser à la place de Godzilla qui vient tout détruire, et donc Mario qui voit sa taille démultipliée pour lui faire face directement. Donc ça a l'air d'être un petit peu n'importe quoi, et c'est plutôt chouette parce que moi, ça me fait plaisir de voir Nintendo quelque part pousser un petit peu la formule et pousser la logique à son paroxysme et dans quelque chose de beaucoup beaucoup moins sage. Mario 3D World avait assumé déjà ce côté un peu débile par moment avec ses transformations alambiquées, d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans ce qu'on a vu. Les extraits de gameplay montraient qu'on allait pouvoir reprofiter la transformation des Hammer Bros, ce genre de choses. Bref, ça a l'air d'être un mélange en fait de pas mal d'inspirations avec des chats en plus, donc forcément on est hypé, quoi.
Moi, la question que je me pose avec ce mode Bowser's Fury, c'est sa durée de vie. Parce que comme j'ai fait Luigi's Mansion 3 en coop avec ma femme intégralement, l'idée d'avoir un nouveau jeu auquel jouer avec elle en coop comme ça, ça me plaît bien. Mais bon, si c'est juste 2 heures, si c'est un truc de 2 heures, ça serait un peu dommage. Et aussi Bowser Jr., la chose à laquelle ça m'a un peu fait penser au mode de joueur de Super Mario Galaxy. Parce qu'en fait, Super Mario Galaxy, quand tu jouais à deux, en fait, tu avais un deuxième joueur qui dirigeait juste la Wiimote et qui pouvait t'aider à ramasser des étoiles, enfin des petits morceaux, des petits fragments d'étoiles et des pièces, etc. En fait, c'était pas un joueur à proprement parler impliqué vraiment dans le gameplay, mais qui venait en soutien. En soutien du premier joueur. Et là, vu les angles de caméra qu'on voit dans le trailer, etc., j'ai pas l'impression que Bowser Jr. soit autant impliqué que Mario. Il est un peu en retrait. Parfois, il y a même certains plans où on le voit presque pas. Donc, je me demande si, on va dire, ça serait un gameplay simplifié pour le deuxième joueur qui viendrait à côté de Mario. Donc, ça, c'est une question. Hein ?
Il est même à l'écran, là où justement tu avais qu'un pointeur sur Mario Galaxy, donc on peut espérer que ce soit un peu plus présent qu'une simple aide comme ça à ramasser des items.
Mais c'est intriguant en tout cas. Et après, on sait que Nintendo n'est pas spécialisé là-dedans, mais je suis curieux de savoir pourquoi Mario s'associe à Bowser Jr. J'ai l'impression que Bowser est envoûté, en fait, ça a l'air d'être un truc de ce goût-là, parce qu'il est un peu recouvert de lave ou je ne sais quoi, donc peut-être que c'est ça qu'il
l'envoûte. Une espèce de mélasse, je dirais, qu'il y a eu une marée de noir qui l'a recouvert, il y a quelque chose de très très sombre, effectivement.
c'est le Mario de la maturité, c'est le Mario Dark, il y aura peut-être même du sang et des trucs comme ça.
Bon, bref, on est plutôt hypé par la proposition, finalement, donc ça valait le coup d'en parler, ça fait du bien de reparler un peu des jeux Nintendo pour 2021, en espérant qu'il y en aura encore d'autres qui vont se présenter. Et autres, quand je dis de Nintendo, c'est chez Nintendo, parce que Monster Hunter Rise devrait, lui, faire un joli carton aussi. Et on en a parlé la semaine dernière. Oui.
C'est ce qui va ouvrir un petit peu la saison 2021, puisqu'il arrive le 12 février. Donc ça va être, je crois, le premier first party à sortir. Et puis juste derrière, on va avoir Bravely Default 2, qui arrive le 24, semble-t-il. Donc effectivement, janvier, c'était assez calme, mais là, on va a priori repartir sur les chapeaux de roue dès le mois de février. C'est plutôt bon signe.
Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout ce podcast. En rappel, vite fait, nous avons la preview de Persona 5 Strikers qui est parue. N'hésitez pas à aller la lire. Au moment où nous enregistrons le test va paraître. Hitman 3 aussi, le test est arrivé. On en a parlé la semaine dernière. Maintenant, vous avez la totale dans le test. Bref, on va se quitter là-dessus sur des notes un peu plus joyeuses. Merci Thomas, merci Romain, merci Poufi, comme
Oui.
d'hab, à la Réal. Merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Maintenant, comme à chaque fois, on va vous dire, faites pas les cons, jouez bien et surtout, mettez un masque, lavez-vous les mains et c'est
Gardez
déjà
vos
pas mal.
distances.
Et ouais, voilà, gardez vos distances et prenez soin de vous. Voilà, c'est tout. Ciao!
Ciao. Là. Oh.